d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barche pour vous présenter cette édition du 22 novembre 2018. Au Niger, 8 foreurs ont été tués par des terroristes dans la région de Diffa. Au premier jour de la campagne électorale en RDC, Joseph Kabila a réuni les cadres du FCC et son dauphin Chadari dans sa résidence de Kingakati. En visite au Portugal, le président angolais João Lourenço réaffirme sa détermination à lutter contre la corruption. Donald Trump s'oppose à nouveau au chef de la Cour suprême sur le décret verrouillant le droit d'asile. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Au Niger, 8 travailleurs de la société de forage Foraco ont été tués dans une attaque terroriste à Toumour, indique la firme. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les travailleurs ont été tués lorsqu'un groupe de terroristes a attaqué le bâtiment où se reposait une équipe de foreurs et techniciens de Foraco dans la région de Diffa, selon le communiqué de l'entreprise. La firme précise que les assaillants ont ouvert le feu sur le personnel qui dormait dans un bâtiment choisi en accord avec les forces armées nigériennes chargées de la protection du personnel. La société déplore la perte de 7 employés. La 8e victime est un fonctionnaire du ministère de l'Hydraulique. 5 autres personnes ont été blessées. La compagnie Foraco réalise actuellement 2 forages d'eau aux alentours du camp de réfugiés de Toumour pour améliorer les conditions de vie des personnes déplacées. Cette zone est située près de la frontière nigériane, région en proie aux troubles liés à la proximité du groupe Boko Haram.
La cour d'appel de Cotonou a réduit les peines de prison de 5 responsables de compagnies pharmaceutiques béninoises, condamnés en première instance à 4 ans de prison ferme dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments. Ils ont vu leur peine réduite à 18 mois ferme et le reste avec sursis. Ils devront payer 10 millions de francs CFA d'amende et 100 millions de dommages et intérêts à verser solidairement à l'État. En Centrafrique, au moins 2 personnes ont été tuées et 6 blessées hier à Bangui dans des combats entre 2 milices près du PK5. Le point avec Arzuma Compaoré.
Un échange de tirs a éclaté entre les miliciens du PK5 et une milice du quartier Miskine où vivent des chrétiens et des animistes. Ces derniers auraient agressé 2 jeunes musulmans sur une moto, selon des habitants du PK5, ce qui aurait déclenché des violences. 2 personnes poignardées ont été prises en charge à l'hôpital Sika 1, géré par l'ONG Médecins Sans Frontières, selon une source hospitalière. 4 autres blessés ont été pris en charge par d'autres structures médicales. Des tirs à l'arme légère et à la grenade ont été entendus jusqu'au soir au niveau du rond-point Serpent, situé à la croisée de plusieurs arrondissements de Bangui, dont celui comprenant le PK5. Le PK5, poumon économique de la capitale centrafricaine, est souvent le théâtre de violences meurtrières. En octobre, 3 personnes y avaient été tuées. Aujourd'hui, si Bangui vit dans un calme relatif, la quasi-totalité du pays reste sous la coupe de groupes armés qui combattent pour le contrôle des ressources et de l'influence locale.
Le président congolais Joseph Kabila s'est affiché avec son candidat Emmanuel Ramazani Chadari au premier jour de la campagne électorale. À l'issue d'une réunion avec les cadres du FCC dans sa résidence de Kingakati, il a indiqué à la presse qu'il s'exprimerait peut-être demain. Le porte-parole du parti, Lambert Mende, qui est aussi la voix du gouvernement, a déclaré qu'ils étaient sûrs de gagner, estimant que le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, était un point mouche, sachant que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de l'accord de Genève. Plus de 2 ans après la disparition du journaliste burundais Jean Bigirimana, aucune enquête indépendante n'a encore été menée. Les défenseurs des droits humains demandent ainsi aux autorités de lancer des enquêtes sérieuses sur le dossier. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le journaliste Jean Bigirimana avait quitté son domicile de Bujumbura pour se rendre à une quarantaine de kilomètres de la capitale le 22 juillet 2016. Et depuis, on est sans nouvelles de lui. Godbert Bigirimana, la veuve du journaliste, appelle la communauté internationale et les autorités burundaises à mener une enquête indépendante pour connaître la vérité sur la disparition forcée de son mari. Plus de 2 ans après sa disparition à Bugarama, en province de Muramvya, au centre du pays, les autorités burundaises sont restées muettes sur le sort de ce journaliste du journal Iwacu. Ce dernier avait lancé il y a plus de 2 ans une enquête à laquelle s'étaient jointes la police et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi. L'enquête avait abouti à la découverte de 2 corps dans la rivière Mubarazi de la même province de Muramvya, mais le corps de Jean Bigirimana n'avait pas été identifié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a procédé à un léger remaniement gouvernemental suite à la démission du ministre de l'Intérieur et au décès de la ministre de l'Environnement. Malusi Gigaba a été remplacé par Siyabonga Swele, qui occupait le portefeuille des télécommunications. Et la ministre décédée Edna Molewa a été remplacée par Nomvula Mokonyane, qui était ministre de la Communication. En visite au Portugal, le président angolais João Lourenço a affirmé sa détermination à lutter contre la corruption malgré les critiques de son prédécesseur José Eduardo dos Santos, sorti de son silence après avoir été accusé d'avoir vidé les caisses de l'État. Quand nous avons décidé de combattre la corruption, nous savions que nous touchions un nid de guêpe. Nous avons commencé à sentir les piqûres, mais cela ne nous tuera pas et nous ne reculerons pas, a affirmé M. Lourenço à Lisbonne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump s'est de nouveau opposé au chef de la Cour suprême, John Roberts. Cette querelle tourne autour du blocage du décret présidentiel censé verrouiller le droit d'asile. Jacques Aristide nous en dit plus.
Le locataire de la Maison-Blanche écrit sur Twitter que le juge Roberts peut dire ce qu'il veut, mais la 9e juridiction est un désastre intégral et absolu. Un message que le président a envoyé juste après avoir souhaité un joyeux Thanksgiving à tous. Cette journée est généralement présentée comme un moment d'apaisement et de consensus national. La Cour d'appel de San Francisco a suspendu en début de semaine le décret qui prévoyait de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposé par des personnes ayant traversé illégalement la frontière. Pour le président, il s'agit d'une décision prise par un juge pro-Obama. John Roberts, le président de la Cour suprême, s'est alors permis de réagir. « Nous n'avons pas de juge pro-Obama ou Trump ou Bush ou Clinton », écrit dans un communiqué le juge conservateur nommé par l'ex-président républicain George W. Bush. Mais pour le président Trump, il existe effectivement des juges pro-Obama, M. Trump accusant ses magistrats de prendre des décisions choquantes entravant sa politique migratoire. Les juges, ajoute-t-il, ne doivent pas légiférer sur la sécurité à la frontière ou n'importe où. Ils n'y connaissent rien et mettent notre pays en danger, écrit-il encore ce jeudi, tout en indiquant que les forces de l'ordre doivent être autorisées à faire leur travail.
Au plan international, Donald Trump a laissé entendre ce jeudi qu'il pourrait faire sa toute première visite en Afghanistan, où l'armée américaine est engagée dans un long conflit. S'adressant par téléconférence aux forces américaines, le président américain a salué un haut gradé en disant « On se verra à votre retour aux États-Unis ou peut-être là-bas ». Au Yémen, l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a rencontré le chef rebelle Abdelmalik Alouti à Sanaa avant d'aller à Hodeïda, avec l'objectif d'obtenir une accalmie avant les consultations de paix prévues début décembre en Suède. La visite de M. Griffiths vendredi à Hodeïda aux mains des rebelles et en proie à un calme précaire donnera l'occasion à un appel à une accalmie en pleine préparation des discussions de paix, a déclaré l'ONU. Les Émirats arabes unis espèrent trouver une solution à l'amiable à l'affaire du Britannique Matthew Hedges, condamné à la prison à perpétuité à Abu Dhabi pour espionnage, a indiqué ce jeudi le ministère des Affaires étrangères. Ils se disent déterminés à protéger leur relation stratégique avec un allié clé, indique le ministère dans un communiqué au lendemain de la condamnation de Matthew Hedges. La première ministre britannique a estimé devant les députés que les négociations sur le Brexit étaient à un moment crucial, à 3 jours d'un sommet qui doit sceller l'accord de retrait et la déclaration sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Tous nos efforts doivent être concentrés sur la collaboration avec nos partenaires européens afin de mener ce processus à terme dans l'intérêt de tous les citoyens, a-t-elle déclaré. Le sort de l'enclave de Gibraltar et la question des futurs droits de pêche des Européens dans les eaux britanniques font partie des principaux problèmes restant à résoudre avant le départ britannique prévu le 29 mars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée par Nanit Talani.
Au Zimbabwe, Vakai Capital, une société de capital risque qui finance des PME, a réalisé son deuxième investissement dans le secteur de l'élevage. Selon l'agence Ecofin, la bénéficiaire de cet investissement, c'est la firme Zimavian, spécialisée dans la production de poussins, de poulets de chair et de poules pondeuses d'un jour. Cette écloserie de volailles utilisera la ressource obtenue pour importer du matériel destiné à l'expansion de son activité. L'entreprise importera notamment du matériel d'éclosion supplémentaire, ce qui renforcera son activité et doublera ses livraisons de poussins d'un jour. Le Malawi recevra 15,4 millions de dollars du FMI pour poursuivre ses réformes de stabilisation macroéconomique et de développement d'une croissance plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Grâce à ce programme, la croissance économique, actuellement à peine supérieure à la croissance démographique, devrait s'améliorer progressivement à moyen terme. Terminons avec le Nigeria, où l'entreprise française JCDECO fait son entrée sur le marché local de la publicité extérieure grâce à un accord de partenariat avec Horizon Outdoor Advertising, rapporte Ecofin.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'aventure s'est arrêtée pour le Cameroun au mondial féminin des moins de 17 ans.
Les Camerounaises sortent de la compétition avec plein de regrets alors qu'elles avaient l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale. En cas de victoire, les Lions ont laissé passer leur chance en s'inclinant 2-1 contre la Corée du Nord. Les protégés de Stéphane Nzana avaient pourtant ouvert le score à Alice Kamini dès la 6e minute de jeu. Troisième du groupe C, le Cameroun rentre à la maison malgré son exploit contre l'Allemagne 1-0 le week-end dernier. Seul représentant africain encore en course, le Ghana qui affrontera le Mexique dimanche en quart.
Didier Drogba a confirmé sa retraite.
Et oui, l'ancien international ivoirien a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en deuxième division américaine. J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial, a écrit Didier Drogba sur son compte Twitter. Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il l'a fait pendant toute ma carrière, a conclu l'ancien buteur de Chelsea. Drogba a débuté sa longue carrière professionnelle en 1998 au Mans en France. Il est passé par la France avec les clubs Le Mans, Guingamp et Marseille, l'Angleterre avec Chelsea, la Chine avec Shanghai et la Turquie avec Galatasaray. Avec 65 buts en 104 sélections, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui l'a conduit à 3 phases finales de Coupe du Monde en 2006, 2010 et 2014 et 2 finales perdues de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et 2012.
La passe de 5 pour Sadio Mané.
Les Lions de Liverpool a remporté pour la 5e fois consécutive le Ballon d'Or sénégalais, décerné par l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise. Buteur lors de la dernière finale de la Ligue des champions perdue 1-3 contre le Real Madrid, Sadio Mané a formé un duo de feu avec Mohamed Salah. Avec 296 points, il a devancé le Napolitain Kalidou Koulibaly, 251 points, et le Bordelais Youssouf Sabali.
Bertrand Traoré se dit troublé après sa mise à l'écart en club.
Oui, l'attaquant burkinabé n'a pas du tout digéré le fait qu'il a été écarté lors de la rencontre contre Guingamp avant la trêve internationale. Il n'est pas le seul à être passé à travers, mais de là à ne pas être dans le groupe, il a été déçu car ça arrive d'être moins bien et en plus, on ne lui a pas donné d'explication. A confié son frère Alain dans les colonnes de l'équipe. L'ancien joueur de Chelsea est auteur de 12 matchs et 4 buts en Ligue 1 cette saison. Lyon affronte Saint-Etienne demain dans un derby et ses fans espèrent le voir dans le groupe de Bruno Genesio.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Premier jour de campagne électorale plutôt timide à Kinshasa. Pas de grand rendez-vous annoncé pour l'instant. Seules quelques affiches et banderoles ont été placées à certains carrefours de la capitale congolaise. L'heure n'est pas encore au grand rassemblement observé dans pareilles circonstances. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les principales artères de Kinshasa ont gardé leur configuration habituelle, ou presque. Pas de grande transformation en tout cas en ce premier jour de campagne. Le rond-point Victoire, la place Kintamo Magasin, les ronds-points Ngaba, Willerie et d'autres points chauds de la capitale ne sont pas encore envahis par des affiches, banderoles et autres images des candidats. Nous avons tout un mois pour sillonner le pays et battre campagne, a dit à VOA Afrique un candidat président de la République. Quelques heures avant le coup d'envoi de ces 30 jours de campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante rappelait aux candidats, toutes tendances confondues, le respect du code de bonne conduite qu'ils ont signé pour une campagne apaisée et respectueuse des règles. Norbert Basengezi est le vice-président de la CENI.
On n'a pas besoin des morts comme en 2011. Les Palo a perdu 8 personnes, les PPRD 4 personnes, l'IDPS 3 personnes. On n'a pas besoin des injures. La compétition sera âpre, mais que les gens se respectent.
Abordant dans le même sens, Marie-Ange Mouchobekwa, la ministre des Droits humains, a appelé les candidats à éviter des discours incitant à la haine et à la violence.
Chaque candidat doit être responsable dans le discours qu'il va tenir pendant cette période électorale.
Cette campagne électorale s'ouvre dans un contexte tendu, la Commission électorale nationale indépendante n'ayant pas réussi à obtenir le consensus souhaité autour de la machine à voter. Des candidats présidents de la République se plaignent également du fait que les médias publics ne fassent la part belle qu'aux candidats du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir. Les Kinois interrogés en ce premier jour de campagne espèrent également une période apaisée et apaisée. Le candidat a prononcé des discours réalistes.
Chacun des candidats, que ce soit au niveau présidentiel, députation provinciale, nationale, de savoir vendre son projet de société et de savoir aussi communiquer vraiment cette pensée pour le Congo, ce changement. Je crois que le peuple a soif de voir les choses autrement.
Nous, la population, nous attendons les différents projets de société. Chaque candidat à son niveau, pour le président de la République, pour les députés nationaux, ainsi que pour les députés provinciaux. Au deux derniers niveaux, ils vont s'approprier les projets des sociétés qui sont de leur famille politique ou de leur regroupement politique. Mais aussi, nous attendons à des messages de paix, des messages n'ayant pas comme caractère incitation à la haine tribale, non.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Tchad, le président du parti d'opposition UDP, l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, exige du gouvernement la clarification de la situation dans le Tibesti, en proie à la violence armée. Max Kemkoy invite les deux protagonistes, gouvernement et groupe rebelle, à la table des négociations afin d'épargner la vie des civils. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Quand les Tchadiens meurent, un homme politique responsable ne peut se taire, estime Max Kamkoui, président de l'UDP. Il appelle à la cessation immédiate des hostilités meurtrières et d'envisager une négociation pour une solution politique.
Déclarer utiliser tous les moyens dans le jargon de la guerre suppose aussi l'usage même des armes chimiques si celles-ci se trouveraient à la portée du gouvernement. Le gouvernement doit sortir de la surenchère verbale et de la rhétorique guerrière pour traiter le problème en appelant les choses par leur nom et non de se cacher derrière les épithètes faciles ou un habillage de réalité. Un groupe armé est un groupe armé. S'il est constitué et qu'il a un nom, les Tchadiens veulent savoir qui est-il, quelles sont ses revendications. Que veut-il? A-t-il raison ou tort d'agir de la sorte?
Une sortie médiatique qui fait suite à celle de l'ex-ministre en charge de la sécurité publique. Ahmad Mohamed Bachir avait déclaré que le gouvernement tchadien n'entend pas négocier avec les groupes armés, mais envisage plutôt une option militaire.
On n'a pas à négocier avec des voyous ou des mercenaires. Être mécontent et prendre une arme et venir demander la négociation, aucune négociation. À la guerre comme à la guerre.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Yahya, indique pour sa part qu'il n'y a pas un groupe constitué de rebelles sur le territoire tchadien. Ceux qui écument les localités de Miski et Yeboubou sont des terroristes.
Les rebelles sont où et à quel niveau? Nous faisons face à des groupes armés, il faut bien le préciser, qui raquettent, qui rançonnent des paisibles citoyens et ils doivent être traités comme tels.
Et le président de la République a toujours tendu la main à tous ceux qui veulent rentrer. Il y a même une amnistie. Si les gens veulent vraiment participer au développement du pays, ils doivent en tout cas saisir cette perche-là. Ceux qui s'opposent au gouvernement, je crois qu'il n'y a pas autre solution que de leur opposer les armes. Et ça, c'est clair.
Le président l'UDP Max Kamkoui déclare par ailleurs que le problème qui se pose au nord et à l'est du pays est d'ordre politico-administratif et non un problème militaire.
Quand une population n'est pas d'accord avec une réorganisation ou un découpage administratif, quand une population réclame ses droits à travers la demande d'application du code minier quant à l'exploitation aurifère, laquelle exploitation doit dégager une redevance à reverser à la zone productrice, si celle-ci se fait de façon industrielle, tout ça n'est qu'une revendication légitime et le pouvoir doit entendre.
Max Kamkoui exige du gouvernement l'arrêt immédiat des bombardements disproportionnés dans la province de Tibesti. Il lance un appel aux organisations humanitaires d'abréger les souffrances humaines de la population des localités en proie à la violence, des porté à Faya, chef-lieu de la province du Borku. André Kodumadingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Nigeria, le développement de l'agriculture reste un défi à relever pour les autorités fédérales. Parmi les problèmes, citons notamment le faible accès au crédit, le manque de semences de qualité et d'infrastructures et un régime foncier obsolète. Cette situation est à la base de l'exode rural des jeunes qui abandonnent l'agriculture. Notre correspondant Gilbert Tamba fait le point sur l'intervention d'une start-up dans le domaine agricole.
Une chute d'eau située à Ikogosi, une ville du sud-ouest du Nigeria, attire des jeunes visiteurs comme Deola Akeju.
C'est une expérience très enrichissante parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il y avait autant d'endroits magnifiques. C'est quand on voyage qu'on se rend compte de tous ces endroits captivants. C'était une belle expérience de voir la beauté du pays.
Le Nigeria vit presque de ses revenus pétroliers depuis plus de 50 ans, mais face à la chute du prix du baril, l'ex-première économie d'Afrique est entrée en récession. Pour les experts financiers, il est temps pour le pays de trouver des alternatives comme le tourisme, même si le domaine est encore en chantier. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations.
Plus de 80% des agriculteurs du Nigeria sont de petits exploitants. Ces producteurs jeunes jouent un rôle dominant en termes de contribution au produit intérieur brut du pays et représentent principalement la main-d'œuvre qui produit 98% des aliments consommés dans le pays. Problème, ils reçoivent très peu de soutien. Aucune politique ou intervention institutionnelle du gouvernement n'aborde le dilemme des petits agriculteurs. Résultat, nombreux abandonnent leur village pour se lancer dans d'autres business, notamment devenir conducteurs de moto-taxi, principal moyen de transport dans les quartiers d'Abuja, la capitale fédérale. Ayuba Samaïla est l'un d'eux.
Nous n'avons pas d'argent pour acheter de l'engrais, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Abuja. Pour chercher de l'argent pour aller acheter de l'engrais. Et parfois, l'engrais coûte très cher aussi et nous n'avons pas d'argent. Si vous cultivez, par exemple, le maïs ou le gingembre, et si vous n'avez pas d'engrais, le tout va se gâter à cause du manque d'engrais et d'argent.
Comment aider ces petits exploitants agricoles à améliorer leurs rendements? C'est l'objectif qui s'est fixé Thrive Agric, une start-up du secteur de l'agrotechnologie au Nigeria. C'est l'une des 12 start-up sélectionnées par Google. Uka Eje est le cofondateur de Thrive Agric.
Nous avons remarqué que les cultivateurs ont trois problèmes essentiels. De l'argent pour financer leurs champs, donc l'absence de système de financement, le pauvre rendement agricole, par exemple un champ d'un hectare qui pouvait produire 4 à 5 tonnes, ils ne vont récolter qu'une seule tonne et dans certains moins d'une tonne et en plus aussi, ils n'avaient de contrats commerciaux.
À ce jour, plus de 1900 petits exploitants agricoles bénéficient de l'assistance de la start-up au Nigeria. Le financement de ces projets permet aux bailleurs de fonds d'être informés régulièrement sur toutes les activités et les rendements agricoles. Dans cette localité de Guéré, la start-up exploite quelques 325 hectares et pourrait atteindre les 500 d'ici 2019. 32 superviseurs contrôlent chacun 10 hectares. John Buhari Waziri est le coordinateur général.
Well, I work with Thrive Agri because
je travaille avec Thrive Agri parce que l'homme doit travailler pour survivre et autre raison est pour acquérir de l'expérience. J'ai travaillé avant avec le gouvernement, avant même si cela n'était pas dans le domaine agricole, mais ici je gagne de nouvelles compétences pour me permettre d'avoir ma vie.
La start-up a lancé ses activités en juillet 2017. Thrive Agri ne veut pas limiter ses opérations au Nigeria seulement, mais entend graduellement poursuivre ses activités dans d'autres pays. Objectif, atteindre plus de 500 millions de petits exploitants agricoles en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, on fête aujourd'hui Thanksgiving. Traditionnellement, la plupart des Américains célèbrent cette fête en famille, appréciant un repas et s'exprimant mutuellement leur gratitude. Mais des milliers de familles n'ont pas les moyens de s'offrir un repas aussi coûteux. C'est pourquoi la Fondation Amity de Détroit, dans le Michigan, organise chaque année la distribution de nourriture aux familles défavorisées. À ce propos, voici un reportage d'Aftab Borka de La Voix de l'Amérique, présenté par Arzuma Compaoré.
Fouad Zaban, son fils Mohamed, âgé de 14 ans, ainsi que 200 autres volontaires, préparent près de 1200 repas qu'ils iront ensuite partager dans les différents quartiers de Détroit. Ces 7 dernières années, toute la famille Zaban a participé à la collecte de nourriture.
Ce repas n'est pas que pour les musulmans, c'est pour tout le monde, toute personne dans le besoin. Nous allons chez toutes les personnes nécessiteuses dont nous recevons les adresses.
Pour Zaban, ce n'est pas seulement une responsabilité morale, c'est aussi une occasion pour donner l'exemple à ses enfants.
Honnêtement, je veux qu'ils soient conscients du fait qu'il y a des gens moins fortunés que nous, qu'avec tout ce que nous avons, nous sommes bénis. Je veux qu'ils apprennent à aider les nécessiteux et les autres. En gros, l'islam enseigne cela et je pense que toutes les religions le font.
La fondation Amati d'Ahmad El Sayat a lancé cette collecte de nourriture il y a plus de 7 ans. Ahmad El Sayat est le fondateur de la fondation Amati.
Peu importe notre base religieuse ou nos croyances, nous sommes tous ici en tant qu'Américains, Arabes-Américains, Afro-Américains. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous ensemble comme une seule et même communauté.
Dearborn, dans le Michigan, abrite des milliers d'Arabo-Américains. Les habitants de la région l'appellent la capitale musulmane des États-Unis. Beaucoup d'entre eux partagent les vues d'El Sayat.
En tant que musulman américain, je suis très reconnaissant de ce que Dieu m'a donné et de ce que ce pays m'a donné. Quelle meilleure façon que de redonner à votre propre communauté et de tendre la main aux démunis, non seulement aux musulmans, mais aussi les non-musulmans.
Et cela est un sentiment pour lequel chaque Américain peut être reconnaissant.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrou. À la console, Justine Twitz. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.